Vous avez donc le titre du message sous les yeux, une traversée mouvementée. Et ce message est basé sur trois passages dans trois évangiles, l'évangile de Jean, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc. Vous avez là les références. Notre sœur Evelyne Rossi nous a dit un dimanche qu'elle avait eu le privilège de faire un voyage en Israël, et notamment en Galilée. Elle a pu voir le lac de Tibériade que vous avez sous les yeux, où se sont passés tant d'événements du ministère du Seigneur Jésus. Elle nous a dit avoir assisté à une tempête. J'ai trouvé dans un atlas de la Bible la phrase suivante. Le lac était vaste et sujet à des tempêtes aussi violentes que soudaines, à cause des vents qui s'engouffraient dans les vallées. Vous voyez, en effet, il y a des montagnes autour du lac de Tibériade. Pas très hautes, mais il y a quand même des montagnes. Alors, les auteurs de cette phrase font allusion notamment à Marc 4, versets 35 à 41, où l'une de ces tempêtes est décrite, tempête qu'ont essuyé Jésus et ses disciples, et que Jésus avait calmé d'un mot de réprimande. Mais ce n'est pas cette tempête-là dont on va parler, mais une autre. Donc, vous voyez ce lac. Il a 21 km de long, 11 de large, et il est entouré de montagnes. Donc on va voir aujourd'hui une autre tempête que celle de Marc 4, survenue quelque temps plus tard et qui est racontée en Matthieu, Marc et Jean. C'est celle qui a suivi le premier miracle de la multiplication des pains, histoire que nous avons vue lors de à l'église baptiste lors de mon dernier message dans Jean 6. Alors voilà, je vous propose les textes. Je vais les lire avec vous. Voilà donc le texte de Jean, c'est le plus court. Donc Jean 6, verset 16. Le soir venu, c'était le soir de la multiplication des pains. Le soir venu, ses disciples descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Le vent soufflait avec violence, et le lac était agité. Après avoir ramé environ 5 kilomètres, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulurent alors le prendre dans la barque, et aussitôt celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. Voilà donc le texte de Jean, un texte très, très ramassé, hein, une sorte de résumé un peu, qui manque beaucoup, enfin, dans lequel il ne parle pas d'un certain nombre de détails qu'on va voir maintenant. Matthieu en parle beaucoup plus. Matthieu 14, verset 22, aussitôt après, c'est toujours après la multiplication des pains, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux, en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau !» Jésus lui dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Alors Marc nous raconte aussi cet épisode. aussitôt après, toujours aussitôt après le miracle de la multiplication des pains, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac et il voulut les dépasser. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Puis il monta près d'eux dans la barque et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Donc je resitue cet épisode. Jésus avait voulu prendre un temps de repos avec ses disciples, et pour cela, il s'était embarqué avec eux pour aller de la ville de Capernaum vers une région déserte, et donc à l'écart des foules, à proximité de Bethsaïda Julias, sur la rive orientale de l'embouchure du Jourdain dans le lac. En effet, le Jourdain traverse ce lac, un peu comme le Rhône traverse le lac Léman. Mais la foule l'apprend et le devance en s'y rendant à pied. Jésus, ému de compassion pour ces foules, passe toute la journée à les enseigner. Et en fin d'après-midi, il leur offre un super pique-nique sur l'herbe, avec des pains en abondance et des poissons séchés. C'est le fameux miracle de la première multiplication des pains, où il a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Une fois que tout le monde est rassasié, la foule, enthousiaste, veut le faire roi. Il renvoie la foule et s'esquive sur la montagne pour prier, après avoir ordonné à ses disciples de remonter dans leur barque et d'aller l'attendre à Capernaum. Les foules sont donc reparties, les disciples aussi, et il est seul, en prière, sur la montagne. Remarquons que c'est Jésus lui-même qui les a contraints de s'embarquer sans lui, avec la consigne qu'il les rejoindrait un peu plus tard. Ils ont obéi à leur maître. Marc nous dit que la barque était au milieu du lac et que Jésus vit que ses disciples avaient beaucoup de mal à ramer parce que le vent leur était contraire. On peut se demander comment Jésus a pu les voir, parce qu'il faisait déjà nuit. Bien que le texte de Marc ne le précise pas, il y a tout lieu de penser qu'il s'agit d'une faculté surnaturelle de Jésus, qui voit de très loin et de nuit ses disciples peinés à ramer contre le vent. Matthieu nous dit que vers la fin de la nuit, littéralement à la quatrième veille, Jésus décide de les rejoindre. Alors la quatrième veille romaine va de 3h à 6h du matin. Jean nous dit au verset 19 qu'ils avaient déjà ramé sur 5 ou 6 kilomètres lorsque Jésus les a rejoints. Les textes ne nous disent pas à quelle heure précise les disciples se sont embarqués, mais on peut estimer qu'ils ramaient contre le vent depuis au moins 5 ou 6 heures et qu'ils avaient péniblement fait à peu près la moitié du voyage. On peut, je pense, déjà tirer des détails de ces trois textes qu'on peut se trouver sur un chemin d'obéissance au Seigneur, c'est lui qui les avait contraints de s'embarquer, et ramer au propre comme au figuré, parce que les circonstances sont difficiles, voire contraires, comme ce terrible vent. Mais aussi que Jésus nous voit dans nos difficultés. Là, il s'agissait probablement d'une vue surnaturelle, puisqu'ils étaient déjà loin et qu'il faisait nuit. C'est tout autant le cas maintenant. Jésus est au ciel, mais il nous voit ramer alors même que nous exécutons ses ordres. Alors donc, Jésus se met en marche, mais lui sur l'eau, et de nuit. C'est lui le créateur, qui a organisé les lois de la physique, qui veulent que normalement il n'est pas possible de marcher sur l'eau. L'ordonnateur de ces lois peut donc les suspendre à sa guise. Quoi de plus normal après tout? Les miracles de l'eau changée en vin à Cana, et tout récemment la multiplication des pains et des poissons, sont du même ordre. N'est-il pas le créateur de toutes choses? Faire du bon vin avec de l'eau, nourrir 10 000 personnes avec 5 pains ou marcher sur l'eau relève de la même maîtrise du Créateur sur sa création. Alors il approche de la barque des disciples. Épuisé d'avoir ramé péniblement jusque-là, et là ils l'aperçoivent. C'est la grande panique. On pourrait dire panique à bord. Jean dit sobrement qu'ils eurent peur. Mais Matthieu et Marc nous disent que dans leur panique, ils poussèrent des cris, croyant voir un fantôme. Il est drôle de voir que, au premier siècle de notre ère, le fond commun de l'imaginaire populaire n'était finalement guère différent du nôtre. On croyait aux fantômes. Ces êtres immatériels plutôt effrayants, pouvant se manifester parfois de façon visible et dont on attribue généralement l'existence supposée aux esprits des morts. Marc est le seul qui nous précise que Jésus voulait les dépasser. Doit-on comprendre que Jésus ne voulait pas s'imposer? Peut-être. Ce détail nous rappelle l'histoire rapportée en Luc 24, l'histoire des disciples d'Emmaüs auxquels Jésus s'est joint. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent. C'est vraiment une qualité caractéristique de notre Seigneur, il ne s'impose pas. Toujours est-il que c'est la panique. Alors Jésus a cette parole tellement belle, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Quand nous sommes épuisés de ramer et que nous paniquons, Jésus nous dit « N'ayez pas peur, c'est moi. » Matthieu est le seul, vous l'avez remarqué, à nous rapporter la réaction de Pierre. Un bel élan de foi, pourrait-on dire. « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. »« Viens, lui dit Jésus. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Magnifique. Il est le seul de tous à avoir eu ce courage. Notez que les autres sont restés bien sagement dans la barque. Pierre n'avait pas les pouvoirs de Jésus sur les éléments. Mais à cet élan de foi, Jésus répond favorablement « Viens !» Et Pierre marche sur l'eau. Je pense qu'il ne faut pas voir dans cette réaction de Pierre une témérité insensée. Il a vraiment eu un éclair de foi extraordinaire que Jésus s'est plu à honorer. Nous aussi, il peut nous arriver de marcher sur l'eau au sens figuré. Répondant à un élan de foi, le Seigneur peut nous accorder de vivre des victoires surnaturelles. Mais Pierre est rattrapé par la réalité apparente. Voyant que le vent était fort, il eut peur, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Je suppose que Pierre, pêcheur professionnel, savait nager. Mais sur un lac démonté, c'est une autre affaire. Il prend conscience de sa faiblesse et crie au Seigneur. Au verset 31, aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté ?» On doute de tout de nos jours, y compris de l'existence même de Dieu. Jean-Baptiste a douté de la personne et du ministère de Jésus, qu'il avait pourtant déclaré être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, lorsqu'il se retrouve en prison et sa vie même menacée. Et nous, chrétiens, qui avons l'Esprit de Christ vivant en nous, ne nous arrive-t-il jamais de douter lorsque le vent nous est contraire? Matthieu et Marc nous disent qu'ils montèrent dans la barque et que le vent tomba. Marc précise qu'ils étaient frappés de stupeur. Le terme original utilisé signifie qu'ils étaient hors d'eux, au-delà de toute mesure. D'après Matthieu, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Cet hommage rendu à Jésus vient probablement du fait que la tempête s'est calmée instantanément dès que Jésus est monté dans la barque avec eux, et on peut penser que c'est sur le rivage qu'ils se sont prosternés devant Jésus. En effet, le récit pourtant beaucoup plus succinct de Jean nous dit « Ils voulurent alors le prendre dans la barque et aussitôt celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. » Jésus est donc bien probablement monté dans la barque auprès de ses disciples, comme Matthieu et Marc le rapportent, mais ils ont quasi instantanément abordé à l'endroit où ils voulaient aller. Alors que si on observe bien le récit, il semble qu'il leur restait encore quelques kilomètres à ramer. L'exégète suisse Frédéric Godet écrit dans le style d'un savant chrétien de son époque, le tout début du XXe siècle. C'est pour ça que vous allez voir, c'est un langage un peu... on n'a pas bien l'habitude. Voilà la souveraineté réelle que Jésus oppose à la royauté politique que l'Israël charnel prétendait lui imposer. Je vous rappelle que la foule voulait le faire roi, suite à la multiplication des pains. Il se donne aux siens comme celui qui règne sur un plus vaste domaine, sur toutes les forces de la nature, et qui peut s'affranchir lui-même et les affranchira un jour du poids de ce corps mortel. Si la multiplication des pains a été le prélude de l'offrande qu'il fera de sa chair pour la nourriture du monde, si dans cette nuit terrible d'obscurité, de tempête et de séparation, ils ont senti comme les avant-goûts d'une séparation prochaine plus douloureuse, celle de son arrestation et de sa mise à mort, dans ce séjour inattendu et triomphant au travers des flots soulevés, Jésus a comme préfiguré sa résurrection par laquelle il leur sera rendu, et cette ascension triomphante à laquelle il associera un jour l'Église elle-même, quand l'élevant avec lui par le souffle de son esprit, il l'emmènera jusqu'au lieu céleste. C'est du langage un peu compliqué, mais quand même c'est drôlement beau, je trouve. Je pense que c'est Marc qui nous donne la clé de toute cette histoire. Je ne sais pas si vous avez fait attention au dernier verset. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Donc pour Marc, toute cette histoire, c'est qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains. N'oublions pas que ces récits bibliques sont inspirés par le Saint-Esprit. C'est cette inspiration qui fait dire à Marc, ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Quand les disciples ont été associés par Jésus au miracle de la multiplication des pains, ils y ont certainement vu un acte de puissance dont ils ont éprouvé, je pense, une certaine fierté. Voyez quel maître nous avons. Et ils ont probablement été déçus que Jésus n'accepte pas la royauté que la foule lui proposait. D'ailleurs, un autre récit nous rapporte qu'ils espéraient bien avoir des places privilégiées dans le futur gouvernement de Jésus. Mais Marc dit, ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Quand, quelques années après cette histoire, Marc a rédigé son évangile, le Saint-Esprit lui a révélé que l'incompréhension des disciples était le fait de cœurs endurcis qui avaient besoin d'être régénérés. Et c'est ce qui s'est produit en particulier lors de la Pentecôte. Le prophète Ézéchiel avait écrit au VIe siècle avant Jésus-Christ, dans son chapitre 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit. » Ainsi, le miracle de la multiplication des pains qui a précédé cette traversée périlleuse signifiait que Jésus allait donner son propre corps comme nourriture spirituelle seule capable de donner la vie divine aux hommes pécheurs. Alors je vous propose quelques leçons qu'on peut peut-être tirer de ce récit, de cette traversée difficile. D'abord, on a vu qu'on peut traverser de fortes tempêtes dans nos vies, même quand on est dans un chemin d'obéissance au Seigneur. On a vu aussi que Jésus nous voit ramer, il nous voit ramer contre les circonstances qui nous sont contraires. Et il nous rejoint dans nos difficultés, mais au moment qu'il juge être le bon. Pour cette rencontre, il ne s'impose pas, il attend qu'on l'invite. On a vu dans l'histoire de Pierre que si vous marchez par la foi, vous allez accomplir des choses extraordinaires. Mais si vous regardez aux difficultés, vous risquez bien de sombrer. Mais si nous sombrons, alors crions comme Pierre, « Seigneur, sauve-moi !» Il nous empoignera et nous mettra en sécurité avec lui. Je vous propose de laisser 2 minutes au... la projection de ces quelques leçons qu'on peut tirer de cette histoire pour les mémoriser et les retenir et essayer d'y réfléchir. Et ma conclusion sera simplement « Quel Seigneur merveilleux je possède !»